Le rendez-vous avec Singapour en France, le festival. Venez découvrir la culture et les arts de Singapour à travers plus de 70 événements. Retrouvez toute la programmation sur singapour-lefestival.com.
Et tout de suite, le rendez-vous.
Stai fermo, finiamo subito. Basta. Zitta tu che manco ci vedi.
Isto é o normal. O que não é normal é este interminável rol de culpa e miséria onde não há inocentes. Este encadeamento aleatório é uma coisa pegajosa que afunda e entristece a parte da merda! Todos vós!
L'Europe du cinéma est en colère. Ce soir, dans le rendez-vous en direct sur France Culture, il sera question de Scheherazade, de procès d'animaux, de la disparition des abeilles, de la disparition des lucioles, d'une baleine du Portugal, de la Sicile et surtout de Pasolini. Avec Miguel Gomez qui signe Mille et une nuits, une trilogie monstre pour un cinéma qui travaille le conte oriental comme la métaphore quotidienne d'un Portugal en crise, Émilie Chaudet.
Fresque de ses propres terres en temps austère ou comment celui qui se définit comme le cinéaste de la perte et de l'irrécupérable choisit encore une fois de laisser parler le conte pour un récit de la vie immédiate.
19h30, la chronique cinéma de Jean-Marc Lalanne qui nous embarque du côté du Brésil. Cinéma brésilien pour vous, encore ?
Oui, c'est un cinéma très très vif. On parle aujourd'hui d'une seconde mère de Anna Müllert.
19h35, plateau queer avec Sebastiano Rizzo pour Mezzanotte, un premier film follement sincère, selon les mots de François Truffaut, sur un adolescent solitaire, androgyne, au cœur d'une Sicile machiste, Émilie.
Deux obsessions artistiques, la solitude et la féminité, et elles prennent corps ici, chez un adolescent qui trouve son monde dans l'obscurité de la nuit, tout comme le réalisateur l'a trouvé dans celle des salles de cinéma.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez, que l'on ouvre avec le son du jour.
Le ministère de la Culture vient de transmettre à la justice de nouvelles notes de taxi litigieuses. 38 000 euros dépensés entre janvier 2013 et avril 2014, alors qu'elle était directrice générale du Centre Pompidou à Paris. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics. Une procédure qui s'ajoute à une autre, déjà en cours sur Agnès Salle, et qui concerne 40 000 euros de frais de taxi, dépensés cette fois entre avril 2014 et février 2015, lorsqu'elle présidait l'Institut National de l'Audiovisuel.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Encore une histoire de taxi, c'est
encore
votre son du jour.
Encore une histoire de taxi, alors ça c'était un son d'hier, puisque vous l'avez entendu, on l'a appris hier, après l'affaire des taxis à l'INA, Agnès Salle, donc ancienne directrice de l'INA, est maintenant sous les radars de la justice pour une facture de taxi, là encore très importante, mais quand elle était cette fois au centre Georges Pompidou. Alors pour en finir avec les affaires Salle ou Mathieu Gallet, Fleur Pellerin vient d'envoyer dans l'après-midi aujourd'hui à tous les services culturels de l'État, mais aussi à tous les grands établissements publics culturels, une instruction, en fait une circulaire de plusieurs pages pour rappeler à l'ordre et renforcer les règles qui entourent les dépenses de leurs dirigeants. Les principaux points de vigilance soulignés sont les dépenses des dirigeants, frais de réception, de représentation, véhicules, déplacements, logements, collaborateurs et prestations d'études et de conseils. Ce rapport suggère notamment, cette circulaire, un plafonnement des dépenses de taxi ou de représentation et précise que si les écarts restent rares, ils doivent à l'avenir être systématiquement signalés et encadrés.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour consacré au dossier des conservatoires. Encore cette année, pour cause de rigueur budgétaire, l'État a purement et simplement supprimé la subvention qu'il accordait à quelques 140 conservatoires à rayonnement départemental ou régional. Une enveloppe qui représentait en moyenne plus de 6% de leur budget. À cela s'est d'ailleurs ajouté, dans bien des cas, une baisse des dotations des collectivités territoriales. Aujourd'hui, s'est tenu un grand colloque national sur la question, organisé par le député maire de Versailles, Jean de Mazières.
Député maire de Versailles, donc, qui est une ville très riche en conservatoires, mais il est aussi ancien président de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture. Lui-même, il a fait du théâtre au conservatoire toute sa jeunesse, jusqu'à son entrée à Sciences Po, et il se dit extrêmement inquiet pour la richesse du système d'enseignement culturel à la française.
Ce système, il fonctionne bien à partir du moment où il a les ressources nécessaires. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est que l'ensemble de ces équipements culturels sont financés quasi exclusivement par les communes. Et se pose un vrai problème, notamment pour l'enseignement pré-professionnel, qui devrait, si on faisait un parallélisme avec le reste de la formation professionnelle, il devrait être assumé par les régions. Ce qui avait été prévu dans la loi 2004, et cette loi n'a pas été mise en œuvre. Donc le colloque aujourd'hui, il consistait à dire il y a une nécessité de tout se mettre autour de la table pour arriver à assurer une pérennité.
En effet, le problème des conservatoires devait être réglé avec la loi de décentralisation de 2004.
Oui, cette loi, elle prévoyait que l'État allait déléguer à la région la prise en charge du troisième cycle des conservatoires régionaux et départementaux, c'est-à-dire en fait la partie qui est dévolue à ceux qui vont devenir musiciens, la formation professionnalisante, qui représente, on peut le dire, entre 6 et 8% du financement du budget des conservatoires. Mais finalement, en fait, cette loi n'a jamais été mise en œuvre parce que l'État n'a jamais transféré les crédits nécessaires. Résultat, seulement deux régions ont accepté de prendre en charge cette partie-là, c'est le Poitou-Charentes et le Nord-Pas-de-Calais. Et finalement, aujourd'hui, l'État décide de retirer ses subventions à 140 conservatoires, les laissant en grande difficulté, comme l'explique Catherine Bobin. Elle est directrice de conservatoire elle-même et vice-présidente de l'association Conservatoire de France.
Ça veut dire que il faut se serrer la ceinture. Donc se serrer la ceinture, c'est chercher des économies partout où on peut en trouver. C'est un petit peu compliqué parce que ce qui coûte le plus cher dans les établissements d'enseignement artistique, c'est le personnel. Or, le personnel, en général, ce sont des gens qui sont titulaires de leur poste, donc on les supprime pas comme ça. Alors, ça peut être ne pas remplacer des départs à la retraite, mais comme on est dans un fonctionnement très particulier, avec chaque enseignant qui a sa propre discipline, ça voudrait dire supprimer une discipline. Le problème, c'est que souvent, effectivement, ça touche les plus précaires, c'est-à-dire, par exemple, les profs qui sont pas titulaires parce qu'ils n'existent pas encore dans la fonction publique territoriale, leur spécialité, comme les musiques actuelles, les musiciens intervenants, ceux qui travaillent dans les écoles élémentaires, etc. Donc, c'est souvent les personnes qui, justement, dans les établissements, apportent le plus d'ouverture, qui vont voir leurs heures diminuer.
Alors, au-delà du problème financier, cette crise porte aussi sur la définition de ce que doit être aujourd'hui un conservatoire.
Et pour François de Mazière, il faut que l'État ou les régions prennent leurs responsabilités, donc redonnent ces subventions qui ont disparu pour maintenir en fait le fameux plan Landowski. Le plan Landowski, en fait, il a été mis en place sous Malraux. C'est lui qui régit aujourd'hui notre système. Et pour François de Mazière, il est très efficace et a fait ses preuves.
C'est ce qui a vraiment permis d'avoir un tissu d'enseignement musical, théâtral et de danse assez exceptionnel, avec une gradation suivant le niveau d'exigence, suivant le parcours que veut faire entre l'amateur et le professionnel confirmé. Comme le disait très bien tout à l'heure Hervé Niquet, qui est un magnifique témoignage, Hervé Niquet disait que lui, par les conditions sociales de ses parents, il n'aurait jamais dû accéder à la culture. Et il a pu le faire grâce au conservatoire. À l'époque, il disait que ça coûtait 25 francs. Alors, et ça m'a permis à moi, disait-il, d'accéder au meilleur de la musique et d'être aujourd'hui un des plus grands noms de la musique française.
Mais pour d'autres, la question des subventions de l'État, en fait, ce n'est pas vraiment le nerf de la guerre. Catherine Bobin, par exemple, elle dirige un conservatoire communal. Donc elle ne touche de toute façon aucune subvention de l'État. Elle n'en touchait pas avant, elle n'en touchera pas non plus. Et pour elle, la situation actuelle donc, ne la touche pas directement. Mais finalement, elle y voit une très belle occasion de remettre à plat le système tel qu'il existe.
On peut prendre le pari que du coup, ce mouvement, cette crise qui se passe en ce moment, ça oblige quand même les gens à s'être autour d'une table, à discuter, à essayer de réfléchir. Nous, dans notre association, on milite pour ça, pour une réflexion approfondie et surtout pour se dire que peut-être que le conservatoire de demain, c'est plus le même que le conservatoire d'hier et qu'il faut qu'on réfléchisse à peut-être inventer des nouveaux modèles, à inventer des nouvelles formes de collaboration. Alors, en temps de crise, c'est pas toujours plus facile parce que c'est plus facile d'inventer, d'innover quand on a un petit peu d'argent, mais en même temps, quelquefois, c'est un peu quand on est poussé par un problème financier qu'on est obligé d'avancer.
Voilà, en tout cas, Fleur Pellerin, ministre de la Culture, s'est engagée il y a deux semaines lors d'une forte journée de mobilisation à revenir sur cette décision de couper totalement ses subventions de l'État et a pris une décision de réengager l'État dans les trois années qui viennent dans des modalités qui restent encore à définir.
Et bien tout de suite, on passe au bref, Zoé.
Et l'on ouvre avec un dossier média. Les médias qui ont été sanctionnés en février dernier par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, pour leur couverture des attentats de Paris du 7 et du 9 janvier, déposent aujourd'hui un titre individuel, un recours contre le rappel à l'ordre que leur avait donné le CSA devant le Conseil d'État. C'est un enjeu majeur pour la liberté de travail des journalistes du service public, dont l'information est une des missions centrales, explique France Télévisions, et aussi une nouvelle remise en cause du CSA.
Un journaliste de RFI agressé et expulsé du Tchad.
Il s'agit de Laurent Corot, journaliste de la radio du Monde, qui était au Tchad pour réaliser une série de reportages en prévision du procès pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Alors qu'il déjeunait avec un représentant de l'ONG Human Rights Watch, il a été interpellé par les forces de l'ordre tchadiennes, giflé et embarqué de force dans un avion Air France. L'affaire est en cours de règlement entre les autorités tchadiennes et françaises.
Ventre-corps pour l'art africain à Paris.
Et oui, Christie's proposait hier une vente d'art Afrique-Océanie, Amérique du Nord, avec comme pièce maîtresse le quota de William Rubin, pièce reliquaire originaire du Gabon, qui a été finalement adjugé à plus à près de 6 millions d'euros. C'est un record absolu pour les arts premiers sur le marché français.
Le marché français.
C'est mon côté grande bourgeoise.
Ah bon? La dernière,
c'est une histoire drôle de cinéma, ou en tout cas de cinéma qui se veut drôle, et oui. Car figurez-vous que les exploitants de salles, alors il y a un film qui sort, pour ces messieurs qui l'ignoreraient puisqu'ils ne sont peut-être pas grands connaisseurs du cinéma populaire français, il y a un film qui sort le 1er juillet, il s'appelle Les Profs 2, c'est la deuxième partie d'une filière qui visiblement est un grand succès puisqu'il y a eu Les Profs 1, qui était un film sorti en 2013, qui met en scène des caricatures de professeurs, qui a été un succès populaire monstre absolu. Et alors voilà, alors que tout le monde se prépare à grands coups de promo à la sortie de ce film, les exploitants de salles qui vont le diffuser ont reçu une demande assez loufoque de la part du distributeur UGC Productions sur le film Les Profs 2. Les exploitants de salles ont reçu un communiqué qui leur dit, qui les invite à hausser le volume du film au niveau le plus favorable supporté par la salle et le public pour qu'à aucun moment les rires ne couvrent pas les dialogues du film. Et oui, parce que figurez-vous que ces gens-là ont fait des tests et disent que les gens rient tellement fort lors des projections tests qu'on n'entend même plus les dialogues. C'est un petit peu une belle manière d'être sûr de soi.
C'est ça qui fait rire les gens, en fait. De ne pas entendre les dialogues de ces films.
C'est une hypothèse, Laurent. Nous verrons résultat en salle le 1er juillet.
Merci Zoé, on se retrouvera ce journal de la culture demain.
Demain et sur internet, n'oubliez pas que vous pouvez l'écouter et le podcaster pendant 1000 jours sur le site de France Culture.
19-20, le rendez-vous. C'est sur France Culture.
Plateau Conte de crise avec vous, Miguel Gomez, cinéaste portugais, auteur de 12 films, dont Tabou, hein, qui a été 25 fois nominé, 4 fois primé. Aujourd'hui sort en salle le premier volet de votre trilogie des 1001 nuits. C'est L'Inquiet. Le Désolé, deuxième volet, sortira le 29 juillet. Et L'Enchanté, troisième volet, le 29 août. Soit 6 heures de cinéma pour plus d'un an de tournage au Portugal. Bref, un film monstre. Il s'agit, on le comprend quand on voit le film, d'une transposition libre du conte des 1001 nuits dans votre pays, le Portugal, dans un contexte de crise et d'austérité budgétaire. À quand remonte le projet et de quel ordre avez-vous pensé au départ ce lien entre ce conte oriental et la situation actuelle au Portugal ? Miguel Gomez.
C'est la faute de ma fille. J'ai une fille avec 9 ans et je me souviens qu'il peut-être il y a 5 ans, elle m'a demandé à moi de l'acheter quelque chose, je sais pas. Et j'ai dit bien sûr que non, je te donne pas, j'ai pas d'argent. Et après elle m'a demandé mais papa, c'est à cause de la crise. Et donc moi j'ai l'impression que quand j'avais moi-même 5 ans, je savais pas que c'est la crise. Et donc j'ai pensé à le raconter, la mémoire, mais pas la mémoire, simplement le reportage, c'est pas ça, simplement le registre de la réalité, mais de fabriquer des récits avec ce qu'elle me parlait, avec cette crise qui, j'espère qu'elle n'a pas la mémoire quand elle est plus âgée. Et donc, à ce moment, j'ai décidé d'appeler, enfin, de faire entrer la reine de la fiction.
Scheherazade.
La reine de la fiction sauvage.
Le film L'Inquiet raconte plusieurs histoires. La vôtre d'abord, ou disons celle d'un cinéaste qui a un double projet. Son projet, c'est de filmer la lutte sociale des ouvriers d'un chantier naval et, d'un autre côté, de filmer la disparition des abeilles. Ça va se révéler complètement impossible. Et on vous voit donc fuir littéralement le tournage dans une scène burlesque, hein, puisque vous êtes poursuivi par les caméras qui vous suivent. Et c'est alors que votre assistante, Scheherazade, va prendre en charge le récit. Ça voudrait dire que le film serait né d'un échec de cinéma de rendre compte de la réalité sociale au départ dans cette fiction ?
Il ne faut pas trop croire à ce qu'on voit au cinéma.
Miguel Gomez.
Mais oui, il avait cette inquiétude, il avait l'impression qu'on travaillait avec deux choses qui sont complètement, qu'on a l'impression qui sont complètement opposées. Faire un portrait d'un pays dans un moment délicat de son histoire et en même temps faire des histoires merveilleuses avec toutes les choses qu'on a les trois quand donc ça veut dire des génies, il y a des baleines qui explosent, des choses comme ça.
Des procès qu'on fait à des animaux.
Mais ça, c'était la
vérité. Ça, c'est vrai en plus, oui. Ça date du Moyen-Âge, en effet.
Non, hein. Pour dire la vérité, parfois, on était un peu obligés à ajouter des choses pour que les choses qu'on prenait de la réalité deviennent plus crédibles dans le contexte d'un film. Parce que parfois, la réalité de ce qui se passait au Portugal était si fou, il avait des histoires si incroyables et si excessif qu'on était même obligé d'ajouter comme fiction des choses, des petites touches pour que ça devienne plus crédible pour les spectateurs.
Parce que par exemple, cette histoire d'un coq qui chante la nuit dans un village et qui dérange tout le monde au point qu'il y aura un procès, c'est une histoire qui a existé et que vous êtes allé filmer à ce moment-là. Quelle a été la découverte la plus inattendue que vous ayez faite au Portugal et que vous avez été donc obligé à tourner?
J'ai découvert une société secrète d'un groupe d'hommes qui s'occupait d'une, ils travaillent dans une chose très, c'est pas un travail, ils s'occupent d'une chose très, très bizarre pour moi que je connaissais pas. Ils prennent des pinsons.
Des pinsons et des oiseaux.
Des oiseaux et avec des CD, avec des chants des oiseaux, de ces pinsons, ils mettent ces chants à écouter pour le pinson et pour après faire des compétitions des chants des oiseaux. Et donc, pour moi, ça, c'est un peu quelque chose, c'est précisément ce que je cherchais, c'est un monde, filmer un monde d'hommes que tous ces gens sont presque nés dans des bidonvilles. Donc c'est le prolétariat. Et en même temps, ils s'occupent de quelque chose que c'est comme un autre monde. Un monde avec des règles très codées déjà, mais avec des règles alternatives. Donc en même temps, filmer le monde comme il se présente, avec des gens de prolétariat qui sont au chômage, qui ont des difficultés et qui s'occupent des choses merveilleuses.
Et par exemple, ce type de rencontre, c'était pendant que vous étiez déjà en train de filmer. Ce n'est pas dans la préparation du film, c'est pendant le tournage.
C'est un peu difficile de parler de ces choses parce que tout était mélangé. Donc préparation, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait engagé des journalistes. Normalement, les journalistes ne font pas partie des équipes de cinéma. Il y en a engagé 3 journalistes pour être ancrés dans la réalité, dans l'actualité. Et donc, pendant 12 mois, ces journalistes partageaient le bureau avec nous, avec moi, avec les scénaristes du film, avec un monteur, avec la production. Et le parti pris, c'était ces journalistes devraient nous fournir du matériel à partir des événements qui étaient en train de se passer pour qu'on essayait de fabriquer des récits pour la reine Scheherazade.
Émilie Chaudet.
Vos mille et une nuits, Miguel Gomez, sont donc divisés en 3 films, chacun chapitré en petites histoires, avec des rencontres tout aussi fabuleuses les unes que les autres. On a parlé de ce coq jugé pour chanter un peu trop tôt, un peu trop fort. Cette baleine échouée sur la plage qui explose, des dirigeants politiques sexuellement maraboutés par un mage africain. On est quelque part entre Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini et Apichatpong Verazetakul. D'ailleurs, vous avez travaillé sur ce film avec le chef opérateur du réalisateur thaïlandais. Quelles étaient ses idées pour ce tournage d'un an dans un pays en crise qu'il ne connaissait pas avant?
Avec le chef opérateur de Apichatpong, non, mais il avait quelqu'un qui avait son numéro de téléphone. Parce que c'était le chef décorateur qui avait travaillé dans un autre film avec lui. Et bon, moi, je pensais avoir le chef opérateur de mon film précédent, Tabou. Malheureusement, il n'était pas disponible, donc il avait ses numéros de téléphone. Et j'ai dit, bon, je vais essayer de l'appeler pour voir si cet homme, il est suffisamment fou.
Je peux imaginer.
Pour venir habiter à Lisbonne pendant 12 mois avec un contrat de travail qui s'est... Tout doit rester à Lisbonne pendant ces 12 mois, mais tu vas jamais savoir qu'est-ce qu'on va filmer parce que c'est fait avec des choses qui sont pas passées à partir des événements qui vont arriver dans le futur. Donc, il n'y a pas de scénario, je peux pas t'expliquer quel genre de film il s'agit, et tu dois habiter à Lisbonne, donc l'autre côté du monde. Il a dit oui. C'était incroyable de travailler avec lui. Cette disponibilité, ou cette folie, ça dépend de comment on regarde ça, de venir y être disponible pendant 12 mois pour faire quelque chose qu'il ne pouvait pas anticiper, c'est quelque chose qui s'est transposé aussi pour la manière comme il a travaillé pendant les films. Il était d'une disponibilité, d'une générosité incroyable. Peut-être c'est parce qu'il est bouddhiste, je ne sais pas.
On vous a demandé, comme à chacun de nos invités, de nous apporter un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi.
Voilà, salut donc !
Identification de ce son, Miguel Gomez, est la raison pour laquelle vous l'avez choisi ?
Bon, ça c'est un pinson.
Donc ça a un rapport avec le film.
Et je crois qu'il est un rito shell, parce que moi je suis très bon à identifier le type de chant des oiseaux, mais les gens que j'avais filmés, ils arrivent à identifier, c'est pas des dizaines et dizaines de genres de chants de pinson. Ça se passe pendant la compétition de ces chants des oiseaux. Ça se passe à côté de l'aéroport de Lisbonne. Donc, il y a beaucoup de chants des oiseaux mélangés avec des avions qui arrivent, qui décollent et qui descendent et qui partent. Et donc, c'était vraiment, je pense, la chose plus surréelle que j'avais filmée dans ma vie. Et il y a ça, donc les avions, les pinsons et surtout le silence de ces hommes qui porte des bières dans ses mains, mais qui font un silence solennel en écoutant les chants des oiseaux.
Quand on regarde le titre, bien sûr, de votre film Mille et une nuits, on ne peut que penser à Pasolini, puisque lui-même l'a tourné. Et quand au début du film, vous avez le projet de tourner La disparition des abeilles, on pense à une autre disparition sur laquelle avait travaillé Pasolini dans un texte, c'est La disparition des lucioles. Je me demandais si vous aviez revu le film de Pasolini pour votre tournage.
On a fait la veille de tournage, parce qu'on avait, c'est pas revoir, j'ai jamais,
vous l'avez jamais vu
le film, oui. Et donc, moi et les deux scénaristes travaillent avec moi, on a vu les films.
Et?
C'est pas mal. Non, c'est un film, c'est différent, parce que dans son cas, il adapte vraiment quelques moments du livre, quelques pages du livre, des certaines histoires. Et dans ces cas, il n'y a aucune page de ce livre qui est mis dans les films. Il n'y a aucune séquence que c'est la transposition, une adaptation d'un conte de Scheherazade. Mais je pense que dans les films de Pasolini, comme ici, surtout les choses plus importantes, c'était d'être fidèle à l'esprit du livre. Donc, ça veut dire essayer d'avoir une structure qui vient un peu baroque, un peu sauvage. Quand je dis que Scheherazade, c'est la reine de la fiction sauvage, c'est parce que c'est délirant. Bon, tout le monde le sait, non? C'est vraiment délirant, c'est excessif, parfois c'est violent. Et bon, il y a ça qu'on partage dans les films de Pasolini et Les Mille Nuits Portugaises. Mais il y a aussi l'idée de filmer des gens qui viennent du peuple, de cette culture. Je pense que c'était un grain, que c'était la démarche de Pasolini. Il était très intéressé à ça.
Et vous-même, dans
faire
votre film,
films populaires
avec des gens populaires. Et c'est ce que vous faites aussi dans votre film, puisque vous filmez frontalement ce que vous appelez les magnifiques, qui sont des chômeurs, qui racontent leur histoire face à la caméra. Dans quelques instants, on va parler de votre premier geste de cinéma, Sebastiano Rizzi, pour le film Mezzanotte, et Rizzo. Et je sais que Pasolini peut fonctionner comme une référence pour votre propre cinéma. À quel niveau pour vous ?
Ma Pasolini per me, come per probabilmente molti italiani, molti appassionati di cinema, è un punto di riferimento.
Pasolini per me, come beaucoup de gens de passionnés de cinéma, c'est un point de référence.
Perché probabilmente da lui in poi inizia tutto un tipo di cinema concettuale e un modo di pensarlo e realizzarlo.
Perché a partire da lui è tutta una forma di cinema concettuale e una maniera di realizzare e di farlo.
E poi è vero che alcuni temi appunto che sono stati trattati da lui mi appassionano, mi piacciono molto, li sento molto affini a quello che sono i miei interessi.
C'est vrai qu'aussi beaucoup de thèmes qu'il a filmé, je m'en sens très proche, les aime beaucoup et effectivement ce sont ceux qui m'intéressent aussi.
Ça, on verra ça tout à l'heure en effet avec votre film. Émilie ?
Miguel Gomez, un mot sur le rôle des producteurs et notamment de Luis Urbano qui a travaillé avec vous sur ce film. Quel a été son rôle ? Comment est-ce qu'il a récolté les fonds pour ce projet ?
Parce que c'est un projet énorme, hein. Un an de tournage au Portugal en temps de crise.
C'est vraiment un mystère parce qu'on a reçu tous des aides un peu partout dans l'Europe à partir d'une idée de... pas d'un scénario, parce que j'ai expliqué, c'est impossible de raconter les films, d'avoir ça dans un scénario, parce que les films dépendent des choses qui ne sont pas arrivées. Donc on a construit un faux scénario en disant, bon, ça c'est une sorte de simulation, pendant 2 mois ou 3 mois, je ne me souviens pas, on a essayé de fictionner à partir des articles des journaux. Et donc, et après, on a construit un scénario, mais on a ajouté, on va pas filmer aucun page de ces scénarios. Et d'une façon étonnante, on a reçu ces aides.
Des aides de l'État du Portugal?
Du Portugal, ah oui, quand France, même. De l'Allemagne, de la Suisse.
Et comment il a réussi à avoir toutes ces aides-là? Il a fait des discours? Enfin, comment on arrive à récolter autant d'argent un peu partout?
Je crois que ça a bien sûr que le succès de Tabou, enfin la visibilité de mon film précédent Tabou,
a aidé quelque chose.
A m'aider dans ça. Cette fois, j'avais la sensation que je recevais une sorte de carte blanche. Maintenant, je ne sais pas si les gens le regrettent ou pas. Ça me dépasse un peu. Mais la vérité, c'est qu'on avait cette opportunité de faire un film et après, peut-être, j'ai reçu suffisamment d'argent pour pas être capable de mettre tout l'argent dans un long métrage avec plus cher. Et donc, j'ai filmé, j'ai dépensé cet argent avec cette opportunité d'avoir plus d'argent que j'avais l'habitude à filmer plus. Et donc, ça a donné 3 films.
En temps de crise. Émilie Chollet.
Votre film travaille la crise comme une matière et l'intègre dans le régime même du cinéma. Vous filmez face caméra des chômeurs qui vont témoigner de leur histoire. Comment est-ce que vous les avez choisis?
Bon, le travail de l'équipe des journalistes, c'est pas trop visible dans les films. Mais ça, c'est un des cas où je pense que c'est très, très, très visible. C'était les journalistes que dans la région où on avait filmé. On travaillait avec les syndicats pour écouter l'histoire des gens au chômage. À ces moments-là, on était précisément, je crois, au sommet au moment plus dur, plus haut du chômage au Portugal. En France, ça monte. Au Portugal, ça a monté. Et on espère qu'il est en train de baisser maintenant. On verra qu'est-ce qui va se passer. Et donc, le travail des journalistes, c'était de faire toute cette recherche. Et beaucoup de fois, c'était invisible dans les films, mais pas dans ces cas-là.
Comment vous les dirigez, ces acteurs qui sont non professionnels et qui donc témoignent face caméra de leur histoire?
Je crois qu'il n'y a pas une manière, parce que ça dépend de chaque personne. Et donc, c'est comme les rapports qu'on a hors cinéma avec tout le monde. Tout le monde a des réactions différentes, a des choses différentes. Donc, il faut connaître un peu ce que nous sommes en train de filmer et de comprendre comment on peut travailler ensemble.
Le rendez-vous, la chronique.
Miguel Gomez et Sébastien Orizo, on vous retrouve dans quelques instants. La chronique cinéma de Jean-Marc Lalanne, comme chaque mercredi, aujourd'hui direction le Brésil.
Oui, voilà, parce on que reste c'est là que dans ça se passe. L'espace lusophone, comme avec le film de Miguel Gomez, mais on traverse l'Atlantique et on va au Brésil. Parce que, comme vous l'avez dit, Laurent, il se passe vraiment quelque chose dans le cinéma brésilien. Il y a une sorte comme ça de printemps du cinéma d'auteur au Brésil. Le premier signal, c'était un très beau film qui était sorti l'an dernier, qui s'appelait Les Bruits de Récif, qui avait été assez remarqué. Au début du mois, il y a eu un film dont on a parlé ici qui s'appelait Casagrande. Et aujourd'hui, sort un film qui s'appelle Une seconde mère d'une cinéaste qui s'appelle Anna Müllert. Et ce qui est troublant, c'est que tous ces films constituent une scène vraiment extrêmement homogène. Et même, je dirais que Casagrande est sorti il y a 3 semaines et ce film-là se ressemblent de manière extrêmement troublante. Ils ont en commun de réduire la question de la lutte des classes à une question domestique, à l'occupation d'une maison. Alors dans cette maison, il y a la seconde mère du titre qui s'appelle Val. Val, c'est une dame qui est quinquagénaire et qui est vraiment un personnage haut en couleur, absolument irrésistible. C'est une sorte comme ça de mama qui est toujours en train de crier, de lever les yeux au ciel, qui est un peu comme une figure plébéienne d'Almodovar croisée avec la Marthe Villalonga de la sitcom Maggie, dont vous vous souvenez peut-être.
Les deux cas en fait.
Voilà, donc elle emporte tout sur son passage et elle a quitté sa province lointaine pour s'installer à demeure chez une famille de riches de Sao Paulo, de gens très occupés. La mère de la famille, c'est une sorte d'Anna Wintour brésilienne, une espèce de dame très snob sur lequel le film exerce toute sa verve satirique, qui passe son temps à faire des cocktails, à statuer sur où est le cool et à donner d'importantes questions sur le lifestyle.
Mais le cool, il est chez Jean-Marie Durand.
Entre autres. Et donc, du coup, elle a évidemment pas le temps de s'occuper de son fils, ce que va faire la seconde maman, qui va aimer comme son fils le fils de la famille. Mais ce qu'on découvre assez vite, c'est que cette dame, en fait, elle a aussi elle-même une fille qu'elle a abandonnée pour trouver ce travail très loin de chez elle. Et donc, le film met en scène comme ça une sorte de deal économique tordue qui est comme une économie de sous-traitance. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la mère qui a renoncé à son rôle de mère parce qu'elle a beaucoup d'argent, et de l'autre côté, il y a la mère qui a renoncé à son rôle de mère parce qu'elle n'a pas assez d'argent. Donc, le film traduit en question économique ce drame existentiel. Alors le corps refoulé du film, c'est celui de la jeune fille, de la fille de Val, qui au bout d'une demi-heure de film arrive, parce qu'elle passe ses examens d'entrée à la fac, et elle s'installe provisoirement dans la famille bourgeoise. Et alors un peu pour rester chez Pasolini, il y a un effet théorème
bien entendu.
Évidemment, ça va être évidemment un agent de très très grand dérangement, et comme dans tout le cinéma brésilien contemporain, le drame passe par une gestion comme ça très forte et très politique des espaces, qui occupent l'espace, et donc entre les lieux autorisés pour les maîtres, les lieux autorisés pour les domestiques, il y a une dramatisation maximale et un jeu complexe de chicanes, d'emboîtements géométriques que va totalement exploser cette jeune fille qui est une sorte d'animal non domestiqué du coup, qui va comme ça faire déborder tous les espaces jusqu'à ce que ça explose. Donc c'est un film assez féroce, mais ce qui est assez touchant et beau dans le film, c'est que c'est un film qui s'intéresse plus à la question de l'émancipation qu'à celle de l'oppression. C'est vraiment un film porté par une énergie très très positive, qui croit farouchement à la possibilité de déjouer la reproduction sociale, et donc un film qui traduit quelque chose du dynamisme à l'œuvre, comme on peut le savoir de façon un peu lointaine, aujourd'hui dans la société brésilienne, et dont on peut penser que cet éveil dans le cinéma d'auteur brésilien est un signe supplémentaire.
Est-ce qu'il y a les réveils d'un cinéma d'auteur au Portugal, Miguel Gomes?
Je pense que une des choses qui est intéressante au Portugal, c'est que même si on fait très peu de films, ça n'a jamais disparu. Donc j'ai la sensation que depuis les années 60, il y avait toujours des cinéastes importants, enfin importants pour moi au moins.
Et même sur le plan international, bien sûr.
Oui, et je pense que ces cinéastes et ces cinémas étaient plusieurs fois questionnés au Portugal. Et la vérité, c'est qu'ils ont été un peu sauvés par vous. Je me souviens, dans les années 80, l'importance que les interventions de Serge Danet ont eu pour un cinéaste comme Oliveira. Il était accusé à ce moment, il était accusé d'être un peu sénile parce qu'il était trop vieux. C'était 50 années avant sa mort. Après, il a continué. Et donc, il était très questionné que c'était un cinéma, c'était du théâtre, c'était pas du cinéma. Il était très défendu ici en France. Et après, le pouvoir, enfin, a pensé, bon, il y a des gens bizarres hors du Portugal qui apparemment aiment ces choses-là. Donc, on ne fait rien. Et donc, je pense que si moi et mes collègues, on a l'opportunité de continuer à filmer, c'est à cause de ces hommes têtus, comme Oliveira, comme Monteiro, et comme, Costa, entre autres.
On va passer à une autre histoire maintenant, cinéma italien.
Le rendez-vous.
Papa, andiamo a casa.
Facendo la mano, guariscono tutte le ferite.
Come ti chiami?
Davide.
Quante ne hai?
14.
Se agli altri fa schifo, voglio pregare.
Non mi farà dormire per strada.
Stato in casa un po' lui.
Plateau nocturne avec vous, Sébastien Orizot, cinéaste avec un premier long métrage, Mezzanotte, qui sort aujourd'hui en salle. C'est l'histoire de Davide, un adolescent solitaire de 14 ans, à l'apparence androgyne, ce qui ne manque pas de créer une tension avec son père. David finit par s'enfuir et trouve refuge à la Villa Bellini, parmi les prostituées et des transsexuels qui peuplent cet endroit. C'est à Catane, en Sicile, qui est votre ville natale par ailleurs. C'est un film très sombre, ce qu'indique le titre. Peu de lumière, peu de scènes en extérieur jour. Votre chef opérateur a même utilisé une caméra digitale dernière génération combinée à une lentille des années 70, ce qui donne une image avec un léger grain et des couleurs un peu passées. Comment ce choix, cette technique, s'est-elle imposée ?
Ma intanto la scelta è stata pratica, perché il budget a disposizione era talmente ridotto che non potevamo che girarlo in una macchina digitale.
Il budget était tellement réduit qu'on pouvait le tourner qu'avec une caméra numérique.
Et cette idée des lentilles des années 70
Et col direttore della fotografia abbiamo iniziato tutta una serie di sperimentazioni.
Avec le directeur de la photographie, on a commencé tout un tas d'expérimentations.
E provare appunto come adattare queste lenti anamorfiche su una macchina digitale.
Et donc on a essayé de voir comment on pouvait adapter cette lentille sur une caméra digitale.
E l'effetto ci colpì molto e appunto ci trovammo che fosse adatto anche al tipo, all'atmosfera del film, al tema del film, che creasse una sospensione temporale che per noi era molto importante.
E donc l'effet nous a frappé, c'est très adapté à l'atmosphère du film et c'était pour nous très important justement d'avoir cette espèce de dimension un peu surréelle.
Vous tournez toujours en pellicule, vous, Miguel Gomez?
Toujours.
Ouais, hein, ça coûte cher.
Non, il a un problème avec les producteurs. Un des problèmes avec les producteurs, c'est que je trouve qu'ils sont pas très bons à faire des additions. Parce que, à ces moments-là, c'est pas si cher que ça. Bien sûr qu'à...
Mais c'est rare, en fait.
C'est rare, parce que les producteurs savent pas faire des additions. Parce que c'est pas si cher que ça, mais bien sûr qu'on peut filmer moins. Il faut accepter ça.
Émilie Chaudet.
Sébastien Orizot, l'enjeu de ce premier long métrage, c'était de travailler le thème de l'émancipation de l'adolescence pour vous confronter, dites-vous, à votre propre passé et à votre expérience de spectateur. Quel lien faites-vous entre cette expérience de spectateur et votre adolescence ?
Quel est le lien que fait ta propre expérience de spectateur et ta adolescence ?
Ma il film, questo appunto, Lo più buio di mezzanotte, in Francia mezzanotte, è un romanzo di formazione. E moltissimi esordi iniziano appunto con dei romanzi di formazione.
Alors Mezzanotte c'est un roman de formation et il y a beaucoup de réalisateurs qui commencent précisément avec un roman de formation.
Perché appunto è un tema che conosciamo bene, col quale ci sappiamo cimentare con molta confidenza.
Et c'est un thème que nous connaissons bien et que nous pouvons construire avec beaucoup de confiance.
E infatti il film è un po' un triangolo tra la storia vera di Davide e la mia di adolescenza e la storia del protagonista che anche lui soffre di disforia di genere.
Alors c'est une sorte d'histoire triangulaire entre la mienne, celle de David et celle du protagoniste.
Mais justement, Émilie parlait de cette expérience aussi de spectateur. Quel spectateur étiez-vous à cette période-là, vous, à l'adolescence? Quels étaient les films que vous regardiez?
Gli spettatori quando eri adolescente, quando eri ragazzo.
La mia adolescenza. Ma io credo che il tema del mio film sia un tema universale perché l'adolescenza è caratterizzata da dei fattori comuni. E, che tu sia cresciuto a Catania, a Parigi, a Seul o a Singapore, comunque l'adolescenza è appunto caratterizzata da una mancanza di equilibrio dove le passioni sono vissute in maniera molto intensa, come le paure. E quindi credo appunto che la mia di adolescenza sia stata utile per raccontare quella di Davide.
En fait, ma question était sur quels étaient les films que vous regardiez quand vous étiez adolescent.
Quali sono i film che tu guardavi quando
eri
adolescente?
Sebastian Torres. No, ok, now I got it. Sicuramente E uno dei primi film è stato Antoine Doinel nei 400 colpi.
Ah, d'accordo, du côté Truffaut.
Les 400 coups d'Antoine Doinel.
E noi ragazzi dello zoo di Berlino, appunto, Christina F., e Germania anno zero, insomma, gli esempi, i grandi esempi di cinema di formazione sono questi.
E Allemagne anno zero, les grands exemples de cinéma de formation, en fait.
Et vous, Miguel Gomez, votre premier chèque de cinéma, c'était aussi du cinéma de formation, j'ai pas l'impression.
J'ai pas compris ça.
Le cinéma que vous regardiez quand vous étiez adolescent, votre premier choc cinématographique, c'était
Truffaut.
Les Aventuriers de l'Arche perdue.
Comment on dit ça en français c'était The Riders of the Lost Ark, c'est comment?
Les Aventuriers
de l'Arche perdue. Je suis bien tombé dessus. Oui, donc c'est une autre histoire, un autre cinéma.
J'avais la possibilité, j'avais une voisine dans mon immeuble qui travaillait dans le box-office, dans le cinéma. Donc, et à ce moment, c'était pas comme aujourd'hui que les salles de cinéma sont vides au Portugal. Il avait beaucoup de monde. Et donc, je pouvais voir les films dans le cinéma à côté de chez moi, parce que j'avais dans mon bâtiment une personne qui s'occupait des ventes des entrées.
Un skieur. Émilie.
Sébastien Orizzo, votre acteur principal dans Mezzanotte, c'est un acteur non professionnel, Davide Capone. Pourquoi avoir choisi un acteur non professionnel? Était-ce par défiance envers les acteurs professionnels, justement?
Ma sicuramente perché per godere della bellezza di un viso come quello di Davide.
Pour sûrement pour profiter de la beauté d'un visage comme celui de Davide.
Che appunto il prima di arrivare a prendere un non professionista per due anni ho incontrato tutti i ragazzi delle agenzie di recitazione da Roma a Milano.
Et avant j'ai rencontré tous les garçons qui m'étaient proposés par les agences de Rome et de Milan.
Il produttore era disperato, mi ha detto basta, tu stai perdendo tanto tempo, ho visto 5.000 ragazzini, ma nessuno era quello giusto.
Et le producteur était espéré, j'ai vu 5000 jeunes et personne n'était celui qui convenait.
Et poi appunto gli chiesi di andare una settimana a Palermo e scavalcai dentro il liceo musicale insieme al direttore casting e vidi Davide.
Et donc en passant une semaine à Palermo, j'ai rencontré Davide.
E il direttore casting mi disse no, ti sbagli, una ragazza, non possiamo prenderlo.
Il direttore di casting ha detto no, c'est une jeune fille, on peut pas la prendre.
E invece appunto era un ragazzo e per me è stato veramente come riconoscerlo dopo.
E c'était en fait évidemment un jeune homme et pour moi c'était comme le reconnaître.
Perché dopo 14 stesure della sceneggiatura io mi ero creato un identikit ed era lui.
E donc parce qu'après 14 scénarios successifs je m'étais fait presque un portrait robot et c'était lui.
E lui è diventato fondamentale. Io credo che se si può parlare di una riuscita del film, l'80% dipende da lui, dalla sua forza, dalla sua faccia.
Et donc ça c'était vraiment fondamental parce que si on veut parler d'une réussite du film, c'est 80% ça tient à lui, de son visage et de sa force.
Comme à tous nos invités, Sébastien Orizzo, on vous a demandé de nous apporter un son qui vous a marqué. Voici ce que vous avez choisi. Qu'est-ce qu'on écoute et la raison de ce choix ?
Il brano è Nina Simone in You'll Be So Nice to Come Home Too ed è un brano appunto che probabilmente che ho sentito di più da sempre perché parla di mancanza.
C'est donc Nina Simone et c'est peut-être le morceau que j'ai le plus écouté parce qu'il parle du manque.
Perché appunto la mia vita è segnata da una mancanza, da una distanza, il film parla di mancanze ed è per me un elemento molto importante, un elemento appunto che diventa nel film caratterizzante e poetico.
Donc justement parce que ma vie a été beaucoup marquée par le manque et la distance, et le film en parle beaucoup de ce manque, et c'est un élément que j'ai essayé de traiter avec distance et poésie.
Le fait d'écouter une chanson, ça fait penser aussi au fait que peut-être pendant le casting, vous auriez fait chanter Davide, justement, et une chanson de Nina Simone, ou autre.
E sì, come fare un provino a un ragazzino che non è lui a venire da te, ma sei tu ad averlo preso durante la sua ricreazione?
Alors comment on peut faire pour faire justement un bout d'essai avec un garçon qui n'est pas venu vers toi mais qui ou qu'on est allé chercher?
E chiesi di cantare una canzone.
Et je lui ai demandé donc de chanter une chanson.
E lui appunto 14enne mi cantò "Hai pure aspetto io" di Nina Simone.
Et il m'a chanté "Con aspetto io" de Nina Simone.
E questo mi colpì perché pensare appunto il profondo sud Europa, in Sicilia, a Palermo, questo ragazzo, ragazza con i capelli rossi che ti cantasse in maniera così ben interpretata, un testo poco fruibile per un quattordicenne, mi diede la certezza di che era lui, che aveva la sensibilità giusta per fare un film come questo.
Et ça m'a frappé parce que penser qu'un garçon de 14 ans du sud de l'Europe à Palerme qui puisse chanter un texte qui n'était pas évidemment pas très facile, ça m'a donné vraiment la certitude que c'était lui, que c'était, j'avais fait le bon choix.
Vous avez des techniques pour les castings, Miguel Gomez?
Non, j'ai pas de technique, mais je me débrouille avec des. Je pense qu'avoir une seule technique, ça suffit pas. Je pense qu'à chaque moment, on doit réinventer, réécrire les règles. Mais j'écoutais
Sébastiano.
Sébastien, c'est qu'il disait et il a une chanson dans mon film qui apparaît dans beaucoup de versions, ça s'appelle Perfidia. Et c'était précisément la même méthode. Enfin, j'ai demandé à l'actrice qui devrait jouer Scheherazade qu'est-ce qu'elle pourrait interpréter. Elle savait pas. Je lui ai proposé une sorte de liste de chansons possibles. Elle a chanté Perfidia, on a trouvé ça très très bien. Et donc, heureusement, c'est une chanson qui a beaucoup de versions. Il y en a quand même un film, ou trois films.
De deux heures, de plus de deux heures
oui,
chacun.
Donc il avait beaucoup d'espace pour de différentes versions de Perfidia.
Émilie.
Sébastien Orizzo, vous et votre acteur principal, donc Davide Capone, vous venez tous les deux de Catane, en Sicile, une Sicile que vous décrivez comme étant profondément ancrée dans les valeurs de la virilité, empreinte de l'imagerie mafieuse. Et ça correspond aux deux adultes du film, le père et l'homme en blanc, joué par Pippo Del Bono, auteur et metteur en scène, acteur de théâtre performatif, qui travaille notamment avec des marginaux sociaux et des handicapés mentaux. Pourquoi vous êtes allé chercher Pippo Del Bono ?
Ma perché intanto è un grande artista.
Parce que c'est déjà un grand artiste.
Ha una grande faccia.
Un visage important.
E come tutti gli intellettuali parla con intelletto e tutto quello che dice diventa credibile.
Et comme tous les grands intellectuels, il parle avec son esprit, tout ce qu'il dit devient crédible.
Comment vous aviez connu plutôt son théâtre? Qu'est-ce que vous aviez vu de lui? On le voit beaucoup ici en France. Je sais qu'il a plus de difficultés à se produire en Italie.
Sì, perché io conosco bene il suo teatro perché ho iniziato anch'io dal teatro. E quindi per me quello che lui fa a teatro è coraggiosissimo.
Oui, je l'ai connu au théâtre parce que moi-même j'ai commencé par le théâtre et effectivement ce qu'il fait au théâtre est d'un courage extrême.
E allora chiesi a lui, tu sei l'unico attore che può accettare di fare un pappone che inizia sessualmente un minorenne.
Tu es le seul acteur qui peut faire ce rôle-là du séducteur d'un mineur.
E lui mi disse, ma dicevo io non posso, dicevo vabbè allora mandami la sceneggiatura, la lesse, e disse non posso rimanere indifferente davanti a questa espressione di vitalità dall'Italia, perché secondo lui in Italia c'è un appiattimento, e ha accettato quasi subito di fare il film.
Au début il voulait pas, puis après il a dit oui je vais le faire parce qu'il y a vraiment quelque chose de très fort par rapport à ce qui se passe en Italie aujourd'hui.
Parce que c'est très rare qu'il joue un rôle qui n'est pas le sien d'ailleurs dans des films, généralement en Italie il ne joue dans aucun film. D'ailleurs il vous a parlé de l'état du cinéma italien pour qu'au départ, il refuse de tourner avec vous, Sébastien Orizzo.
Sì, nel senso ne abbiamo parlato molto con Pippo, ma ne parliamo appunto in continuazione. Chiunque abbia la passione per il cinema in Italia, sta succedendo qualcosa di molto importante e di significativo. Credo che il cinema italiano goda di ottima salute.
Alors on en a parlé effectivement avec Pippo, mais j'en parle avec beaucoup de gens qui ont la passion du cinéma italien, et je pense qu'il se passe quelque chose de très important aujourd'hui en fait, qu'il est en très très bonne santé le cinéma italien.
C'è solo un piccolo problema che praticamente la cultura viene continuamente tagliata, quindi c'è da una parte ci sono tanti nomi, molti bisogni espressivi e quasi la totale mancanza di finanziamenti.
Le problème, c'est qu'il y a pas, il manque de subsides, et donc on a d'un côté plein de noms, beaucoup de dynamisme, beaucoup de choses, et l'autre côté, effectivement, le manque d'argent.
Vous aviez commencé par le théâtre, vous disiez, comme metteur en scène ou comme acteur, Sébastien Orezzo?
Col teatro, come attore e come regista.
No, ho iniziato in realtà appunto come assistente alla regia di Emma Dante, che è una drammaturga palermitana che anche lei insomma gode di grande coraggio e che come Pippo vive a Parigi. E poi piano piano appunto un'altra regista mi ha detto no, tu devi lavorare nel cinema perché la tua vera passione è il cinema, e così è stato.
J'ai commencé en fait comme assistant à la mise en scène d'Emma Dante, qui est notre grande metteuse en scène de théâtre de Sicile, et puis après une autre metteuse en scène m'a dit non mais toi c'est du cinéma que tu dois faire.
Et lui, appunto, 14enne, mi cantò E pour aspel ogni di Nina Simone.
C'est vraiment délirant, c'est excessif, parfois c'est violent, c'est pas mal.
Merci à nos invités, Miguel Gomes. Les Mille et Une Nuits, le premier volet, L'Inquiet, est sorti aujourd'hui en salle. Le Désolé, ce sera le 29 juillet. Et L'Enchanté, le 26 août ou le 29 août, il faudra qu'on vérifie. Sébastien Orezzo, Mezzanotte, est désormais sur les écrans. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
En levant la tête, il vit pointer une voile blanche à l'est de l'horizon.
Demain, ce sera une émission théâtre migratoire avec Denis Lavant et Olivier Coulonge-Ablonca et Mamadou Diomandé. La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Émilie Chaudet, Aïssatou Ndoye et Elsa Béranger. Journal de la culture Zoé Sfès, chronique Jean-Marc Lalanne, traduction Olivier Favier, à la prise de son Dofar Guérit et Jacques Hubert et à la réalisation Thomas Beau. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours et la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.
Il est 19h53, vous êtes sur France Culture, c'est bien ? Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la comédie
française.
Alors bonne soirée à tous et à demain.